Bonsoir, bienvenue à cette émission Parole au présent, bienvenue à votre rendez-vous du mercredi soir. C'est Claude Julien qui vous parle. Je suis ce soir en compagnie de Francine Robert, qui est professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Nous entrons donc la fin de semaine prochaine au début de la nouvelle année. Nous quittons notre évangéliste Matthieu pour nous retrouver avec l'évangéliste Marc. D'ailleurs, durant l'émission, on vous le dit tout de suite, on va passer assez de temps dans une présentation de cet évangéliste-là. Alors, rapidement, le contexte, c'est que pour les anciens, le temps est cyclique et on est prisonnier du temps. Alors que chez les judéo-chrétiens, eh bien, le temps s'en va vers une destination, vers une plénitude, vers un achèvement. Francine, peut-être avant de lire ce court texte, aimeriez-vous commenter un petit peu cette vision à l'opposé, autrement dit, de la vision cyclique, une vision, est-ce qu'on peut dire linéaire?
Oui, on pourrait dire une vision linéaire, Claude, vous avez raison. Et c'est intéressant, le choix de la liturgie, de bien manifester en choisissant des textes qui concernent la fin du temps. À la fois pour terminer une année liturgique, alors la semaine dernière, le jugement dernier, la fête du Christ-Roi, dimanche qui vient, la finale du discours eschatologique dans l'évangile de Marc, donc premier dimanche de la nouvelle année liturgique, nous ramène encore à la fin des temps. Cet effort de la liturgie, je dirais, pour contrer notre réflexe de remettre le compteur à zéro et pour nous rappeler que l'histoire progresse vers, comme vous disiez, un achèvement, bon, un monde nouveau, une terre nouvelle et surtout, je dirais, une humanité transfigurée. Si l'être humain est créé à l'image de Dieu, c'est pas toujours évident. En principe, c'est vers cela que l'on va. Donc, ces images de la fin des temps, même si elles sont parfois de type catastrophique, comme dans Marc 13, par exemple, le soleil s'obscurcit, les étoiles tombent sur la terre, elles nous rappellent simplement que cet aboutissement, je dirais, de l'histoire demande, pour aboutir, une intervention de Dieu, une intervention radicale pour favoriser cet avènement d'un monde nouveau.
C'est ça, en fait, on n'est pas esclave d'un éternel recommencement.
Par ailleurs, le texte que vous allez nous lire pour ce dimanche déplace l'accent du futur vers le présent. Il vient conclure le discours de la fin des temps dans Marc, mais il attire notre attention du futur vers le présent qui est le temps de la patience et de la vigilance.
Alors, le texte est extrait de l'Évangile selon saint Marc au chapitre 13. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand vient le moment. Il en est comme d'un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et recommandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison vient, le soir ou à minuit ou au chant du coq, ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez.
Alors, Claude, Le lectionnaire nous rappelle avec son introduction le contexte du chapitre 13 de l'Évangile de Marc en ajoutant cette phrase qui n'est pas vraiment à cet endroit dans l'Évangile. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En fait, il s'agit plutôt du retour du Fils de l'homme. Pour la foi chrétienne, bien sûr, le Fils de l'homme, c'est Jésus. Et le premier verset de notre texte d'aujourd'hui insiste sur notre ignorance du moment de ce retour, et non pas sur ce retour comme tel, mais sur notre ignorance du moment. Vous ne savez pas quand vient le moment, et nous ne sommes pas les seuls à ignorer quand vient ce moment. Au verset tout juste avant notre texte, ça devrait faire partie de la lecture d'aujourd'hui.
Oui, vous avez raison, le verset 32, hein, « Mais ce jour ou cette heure, nul ne les connaît. » C'est Jésus qui parle, là. Mm-hmm. C'est selon saint Marc, ni les anges du ciel, ni le Fils. Imaginez, personne sinon le Père. Est-ce donc que même Jésus ne le savait pas?
Apparemment, oui. Et c'est intéressant, c'est frappant. Faut pas perdre de vue que les évangiles, les quatre, sont écrits par des gens qui voient en Jésus le Fils de Dieu. Et donc, qu'on ait gardé quand même cette phrase sur l'ignorance de Jésus, ça implique qu'un fils de Dieu, c'est pas synonyme d'avoir la science infuse.
C'est ça, qu'il n'a pas la science infuse.
Il est lui-même soumis aux contraintes de l'incarnation, je dirais. Donc, ce court texte que vous nous avez lu vient conclure le discours sur la venue du Fils de l'homme et la venue du règne de Dieu. C'est la conclusion l'annonce d'un événement futur, et notre texte pourtant ne contient aucun verbe au futur.
C'est intéressant,
tout, tout
ça.
Tout est au présent ou au passé, oui. Et je le signale parce que pour la traduction du lectionnaire, c'est un petit peu différent. Mais dans le grec, c'est vraiment « vous ne savez pas quand est le moment » et non pas « quand viendra le moment ». Ce moment est quelque part dans le temps et nous ne savons pas quand. Et vous ne savez pas quand vient le maître.
Et non pas quand viendra.
C'est ça.
C'est au présent. Oui. L'indicatif présent.
Voilà. Donc, on doit vivre au présent avec la certitude que le moment est quelque part et que le maître vient. Mais en même temps, ne pas se perdre en conjoncture ou en hypothèse sur ce futur. Mais vraiment,
ça, c'est une des caractéristiques, hein, chez les premières communautés chrétiennes, de ne pas perdre du temps, et ça salive et tout, à essayer de deviner, mon Dieu, quand est-ce que ça va arriver et tout
ça. Et votre mon Dieu est assez pertinent. Mon Dieu, quand est-ce que ça va arriver?
C'est ça.
Parce que au début, on croyait que ça allait arriver dans les semaines ou les mois
suivant
qui viennent.
Résurrection.
Bien sûr,
ouais.
Puisque le règne de Dieu impliquait la résurrection des morts. Donc voilà, Jésus était le premier ressuscité. Et on le voit très bien dans la deuxième lecture de notre dimanche. Paul qui parle aux Corinthiens, il leur dit « Vous attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ et il vous fera tenir solidement jusqu'au moment où ça va arriver. » Paul s'attend lui-même à ce que ça arrive de son vivant, sauf que ça n'est pas arrivé encore au moment où Marc écrit son évangile. Et leur problème, donc, c'est le retard de cet événement. Donc, une impatience et des hypothèses sur les dates. Mais mon Dieu, justement, quand est-ce que ça va arriver? Ou alors, chez d'autres, probablement un désintérêt. Et puis, ben non, il n'y a rien à attendre, on s'est trompé. Vous voyez? Ça, c'est un des aspects importants de l'attente du retour du Seigneur. Un autre aspect, on doit se le rappeler, c'est que ce retour, est, pour les chrétiens, c'est objet d'espérance. On a cultivé, je dirais, en nous les images de fin du monde et donc la peur du jugement et tout ça. Ça n'est pas négatif, au contraire, c'est un événement qui est objet d'espérance et on le voit bien dans notre première lecture. C'est ce que les gens demandent dans le texte d'Isaïe.
Ah oui, le texte d'Isaïe, là. Je peux peut-être en lire une ligne, quoi. « Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes fondraient devant toi. »
Oui, donc on voit que ces gens qui écrivent, ou le prophète lui-même qui écrit, espèrent la venue du règne de Dieu, parce qu'elle sera la victoire totale de Dieu, finalement. Ou, si on veut le dire dans d'autres catégories, la fin des forces du mal, la victoire du bien sur le mal. Et c'est d'autant plus significatif pour des gens qui sont persécutés. On peut penser à Israël qui vit une situation très pénible sous la domination romaine au temps de Jésus, qui espère la venue du règne de Dieu, bien sûr, entre autres pour la victoire sur les ennemis, mais on peut aussi penser à la communauté chrétienne de Marc, qui a subi des persécutions sous l'empereur Néron, et qui, elle-même, comme communauté chrétienne, espère la victoire de Dieu comme étant la fin de nos malheurs, vous voyez. Donc, c'est pas du tout surprenant qu'on fasse des hypothèses sur à quel moment ça va arriver. Est-ce que ça vient bientôt? Est-ce que, par exemple, la révolte qu'il y a au temps de Marc en Galilée contre les Romains, est-ce que cette guerre-là est un signe de la fin? Est-ce que le siège que les armées romaines font devant la ville de Jérusalem, est-ce que c'est un signe de la fin de ces temps difficiles?
Et la chute du temple en 70.
Oui, c'est ça. Et on ne sait pas très bien si Marc est écrit juste avant ou juste après.
Ça se pourrait qu'il soit avant.
C'est au tournant de ces dates-là, mais cette guerre a duré 4 ans. Donc, alors, voyez, on attend avec impatience. Et donc, on est distrait du présent vers un futur qu'on souhaite voir arriver le plus vite possible.
D'où l'importance d'être vigilant.
Voilà, mais en même temps, d'où l'insistance de notre texte qui dit « Arrêtez d'être tourné vers ce futur, vivez avec la certitude qu'il vient, mais cessez de faire des hypothèses sur les dates. L'important est de veiller, donc de veiller maintenant. »
Donc être très attentif au moment présent.
Exactement. Le verbe « veiller » est à l'impératif. Il revient 3 fois dans notre texte. Hein? Et ce qui est intéressant, c'est que chez Marc, ce verbe grec revient 6 fois dans son évangile. 3 fois ici, et les 3 autres fois, c'est le contexte de l'agonie de Jésus à Gethsémani, où Jésus invite les disciples à veiller avec lui, et il revient en disant « Vous n'avez pas pu veiller ». Alors, on voit bien que, pour Marc, ce verbe est utilisé pour évoquer la nécessité de bien veiller en des périodes difficiles. En passant, le verbe « veiller » ici, Grégoreo...
Tiens, ça me fait penser à Grégoire.
Exactement.
Hein? En grec, Grégoreo.
Donc, tous les Grégoires qui sont
de ce monde
à l'écoute, en tout cas, sont des veilleurs. Mm-hmm. Je trouve que c'est un très beau nom. Et nous avons, dans notre petit texte, une très brève parabole pour soutenir l'impératif de veiller, qui est assez proche. C'est la même image que la parabole des talents, un maître qui s'absente, qui confie des tâches à ses serviteurs dans la certitude qu'il revient. Et donc, nous sommes invités, les serviteurs sont invités à faire leurs tâches et à attendre et à veiller dans l'attente du retour de ce maître qui reviendra à l'improviste. Alors, notre texte nous invite à maintenir l'espérance, à maintenir la certitude du retour, mais sans chercher les dates, les signes. Au fond, c'est un texte sur le présent, mais vivre un présent dont on est conscient qu'il est ouvert sur l'avenir.
Un présent qui est habité, si on peut dire.
Oui, qui est habité par l'avenir de Dieu,
c'est ça.
Finalement. Et donc, qui invite à la confiance et à la vigilance.
Bien. Francine Robert, tel qu'annoncé en début d'émission, nous allons maintenant avoir un survol de cet évangile qui va nous accompagner tout au long de cette nouvelle année liturgique, l'évangile de Marc. D'autant plus que Francine donne une session sur cet évangile, justement. Alors, pourquoi ne pas en profiter?
Merci. Oui. En fait, c'est un cours qui va durer toute la session d'hiver.
C'est un cours, en fait.
Un cours de 45 heures, okay. Oui, tous les mardis soirs à partir de, je sais pas, la mi-janvier.
Bon, alors on peut toujours par Internet ou par téléphone s'informer.
Oui, vérifier à l'Institut de Pastoral. Les auditeurs libres sont toujours les bienvenus. Donc, cet évangile de Marc, qui est le plus court des 4 évangiles, qui est essentiellement narratif, et qu'à cause de cela, on a eu tendance à sous-estimer souvent dans la tradition, parce que les adultes que nous sommes, nous pensons que les idées abstraites sont plus importantes que les récits. C'est une erreur. Les récits et les conteurs, ça existe depuis que les humains sont des humains.
Et c'est ça qui frappe l'imaginaire.
Absolument. Et le langage de la foi biblique, qu'elle soit juive ou chrétienne, c'est d'abord le récit,
écoutez,
le langage de la foi.
En catéchèse, moi je suis témoin, quand les catéchistes racontent des pages de la Bible, l'attention qu'ils vont chercher chez les enfants,
oui.
c'est eux aussi chez les adultes.
Absolument.
Parce que
on a
des catéchèses où les parents sont là, et je vois du coin de l'œil, vous avez raison, toute la force du récit finalement.
Absolument. Et Marc est le premier à avoir recueilli des traditions sur Jésus, des traditions orales et des fragments aussi, donc des traditions déjà écrites. Il est le premier à les rassembler en un tout organisé et cohérent sous la forme d'un récit de type, on pourrait dire, de type biographique. Matthieu et Luc suivront le mouvement en intégrant d'autres récits que Marc ne connaissait pas. Jean va développer aussi de son côté une tradition d'évangile. Mais déjà chez Jean, on voit la tendance à intégrer autant de discours que de récits. Hein. Les discours sont beaucoup plus longs chez Jean. Vous voyez, ça fait un petit peu de Jésus, soit un maître de sagesse, un professeur de vie chrétienne, si je peux me permettre cette expression, ou un révélateur des secrets de Dieu. C'est typique de la présentation de l'évangile de Jean. Et c'est une tendance qui va aller en s'accentuant à mesure qu'on s'éloigne de l'événement Jésus. Hein. Et on voit que très rapidement, au IIIe siècle, les tendances ecclésiales de l'enseignement vont devenir plutôt des discours de doctrine et éventuellement aussi des raisonnements de type dogmatique. Ah, aujourd'hui, tout le monde redécouvre le rôle capital de la narration. Les psychologues, les sociologues, les anthropologues, tout le monde réalise à quel point le récit est important. Et je pense même aux récits de vie qui deviennent de plus en plus signifiants, où on considère que c'est des bons moyens de maintenir, par exemple, la sagesse des grands-parents en leur demandant de raconter ce qu'ils ont vécu. Donc, l'avantage du récit, c'est qu'on stocke dans notre mémoire aussi bien ce qui est dit que les images, les émotions, les réactions, les sympathies, les antipathies envers les personnages. C'est pourquoi le récit vient mobiliser plusieurs niveaux de l'auditeur, je dirais, ou du lecteur. Donc, Marc produit un récit sur Jésus. C'est très conte populaire, hein, le style de Marc. Ça fait, c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas pris au sérieux trop longtemps dans l'Église. Son héros, c'est un héros de conte populaire. Son héros, le personnage de Jésus, qu'est-ce que c'est? C'est un itinérant qui est soumis à diverses épreuves. Hein. Il rencontre des obstacles sur son chemin. C'est une sorte de prêcheur public. Il prêche en racontant des histoires, des paraboles. Il a du succès auprès des foules, il attire les gens, il pose des actes qui fascinent l'imagination, il se fait des amis qui seront plus ou moins fiables et qui vont le laisser tomber finalement. Comment ne pas trouver sympathique, vous voyez, un héros comme ça? Il combat les préjugés sociaux, il est subversif, il fréquente des gens qu'il ne devrait pas fréquenter, il s'affronte à des institutions qui sont puissantes, c'est tout à fait le héros des marginaux, le Jésus de Marc. Il se fait des ennemis dangereux et finalement des ennemis qui vont le détruire. Et il aura le dernier mot. Enfin, pas lui, parce que la finale de l'évangile de Marc est un peu étrange. On aura l'occasion d'en reparler. Mais Dieu aura le dernier mot. Donc, Marc catéchise avec un récit parce que l'objet même de la catéchèse, c'est la bonne nouvelle du salut. Et la façon la plus efficace de révéler ou de proclamer cette bonne nouvelle, c'est de raconter des histoires de salut. Ce que fait l'évangile de Marc.
Je vous arrête parce que le mot salut, des fois, il est peut-être trop galvaudé. On peut synonyme comme libération.
Oui, tout à fait. Passer d'une situation difficile à une situation plus facile. Bon, évidemment, passer de la maladie, par exemple, à la santé, de la prison à la liberté. Donc, pas un salut abstrait, mais encore là, un salut inscrit dans l'histoire de chacun. Donc, ce livre qui est organisé comme une bonne nouvelle suit une, on pourrait dire, une stratégie narrative. Quand un auteur travaille bien, il a un plan en tête et il organise ses matériaux en fonction du chemin qu'il veut faire parcourir à ses auditeurs. On peut dire à ses auditeurs parce que Marc a probablement été utilisé aussi de façon orale avant d'être fait pour être lu avec les yeux, je dirais. Donc, il a un certain plan. On pourrait dire que la structure de Marc nous est annoncée dans le tout premier verset de son évangile. Bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Alors, Jésus qui est son nom, Christ qui est un titre et Fils de Dieu qui est aussi un titre de Jésus. Deux titres qui sont le point de vue croyant sur la personne de Jésus. Et on se rend compte que la première fois où quelqu'un peut désigner Jésus comme Christ, c'est à la moitié de l'évangile. Donc, c'était dans le tout premier verset du livre et ça n'arrive ensuite qu'à la fin de la première moitié, donc au chapitre 8, les versets 27 à 30, lorsque Jésus demande à ses disciples « Qui dites-vous que je suis ?» et Pierre répond « Tu es le Christ » ou « Tu es le Messie », ce qui est la même chose. Et il faudra attendre à la fin de la deuxième moitié du livre, donc à la fin du livre, pour que quelqu'un, un être humain, puisse proclamer Jésus « Fils de Dieu ». Quand je dis « quelqu'un », j'exclus évidemment les voix du ciel, les esprits mauvais, tout ça, dont on pourra reparler. Donc, c'est le centurion au pied de la croix, au chapitre 15, le verset 39, qui proclame la première fois Jésus comme Fils de Dieu. Donc, vous voyez que dans le premier verset, Marc a placé les balises de son livre. Voici l'évangile de Jésus Christ. Il sera dit Christ à la moitié du livre. Jésus Christ, Fils de Dieu, il sera proclamé ainsi à la fin du livre. Et c'est devant Jésus mort que le centurion dit vraiment cet homme était Fils de Dieu. C'est important de s'en rappeler parce que pour nous, on lit les évangiles et on voit toujours en Jésus le Fils de Dieu comme si c'était évident, comme si quelque part il était transparent ou qu'il ne marchait pas tout à fait sur le sol comme tout le monde voyait. Alors que Marc essaie de bien faire comprendre à ses lecteurs qui sont des chrétiens, faut jamais oublier ça, et qui voit peut-être trop rapidement en Jésus le Fils de Dieu, alors que ce titre est objet d'un acte de foi et non pas quelque chose qui se voyait. Et il leur rappelle d'être prudents dans la manière dont ils conçoivent le Fils de Dieu. Comment leur rappelle-t-il? En faisant prononcer la profession de foi du centurion devant Jésus mort. C'est devant la façon dont Jésus est mort que l'on dit qu'il est Fils de Dieu. C'est même pas devant le ressuscité. C'est devant Jésus mort.
Vous nous mettez l'eau à la bouche.
Alors, ça veut dire que il y a une sorte de construction sur l'identité de Jésus dans cet évangile qui est très travaillée, l'identité de Jésus. On pourrait rappeler aussi, et je le fais dans l'espoir que peut-être les gens qui nous écoutent auront envie de lire au complet cet évangile, rappelez qu'il a un rythme extrêmement rapide, cet évangile. Il se lit bien, mais il est si rapide avec des « et aussitôt » à tout bout de champ. Hein. Marc revient avec des « et aussitôt ». On lit un récit assez court. Le temps qu'on réfléchisse sur la réaction de la foule, Jésus est déjà rendu ailleurs. On a toujours l'impression de courir derrière lui pour le suivre. Il est toujours en route, sur le chemin, en barque, en train de traverser des lacs. C'est toujours le même lac, mais en train de sortir de Galilée vers les pays voisins. Et puis là, on réfléchit à ce qui vient de se passer avec la Syro-Phénicienne, mais entre-temps, il est déjà rendu dans la Décapole, qui est à l'autre bout complètement. Donc, cette rapidité, je dirais, du rythme narratif, je trouve, est une qualité du récit de l'évangile de Marc. Et ça a un certain effet, je crois, voulu, un effet catéchétique, qui est de dire, si vous avez des définitions trop claires à propos de Jésus, méfiez-vous, parce que il doit vous échapper. Et il nous échappe tout le temps. Si vous avez l'impression d'avoir mis la main dessus, lisez bien, vous allez voir que au moment où vous croyez l'avoir saisi, il est déjà ailleurs. Donc, il y a là, je trouve, un effet catéchétique dans le rythme lui-même. Donc, c'est un évangile qui se lit très bien, qui est court et qui vaut la peine d'être lu.